Vous écoutez, on lit pour vous.
Donald Trump rattrapé par ses pardons présidentiels partisans. Un texte de Fabien Deglise, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir. En mars 2026, un tribunal de Floride a condamné à la prison à perpétuité un homme de 45 ans pour agression sexuelle sur deux enfants. Andrew Paul Johnson, c'est son nom, a été reconnu coupable par un jury de 5 chefs d'accusation, notamment d'attentat à la pudeur, d'exhibitionnisme et de transmission de contenu préjudiciable à un mineur. Les faits se sont déroulés en juillet 2025. L'indigne se double toutefois d'odieux dans cette affaire, puisque M. Johnson n'est pas un condamné comme les autres dans ce genre de crime. Il fait partie de 1500 Américains graciés massivement en janvier 2025 par Donald Trump à sa reprise brutale du pouvoir. 1500 des insurgés condamnés pour avoir tenté d'annuler par la force la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2020, et ce, en prenant d'assaut le Capitole. Une page sombre dans l'histoire de la démocratie américaine. Selon la police, l'homme a d'ailleurs tenté de faire taire les enfants en leur disant qu'il allait partager avec eux les millions de dollars d'indemnisation qu'il espérait recevoir du gouvernement Trump dans le cadre de ce pardon, a révélé le procès. Ces insurgés graciés, ils se croient intouchables, a déclaré dans la foulée de cette condamnation le député démocrate Jamie Raskin, membre de la commission d'enquête de la Chambre des représentants sur l'attaque du 6 janvier 2021, sur les ondes de la radio publique américaine NPR. Les grâces accordées par Trump ont sans aucun doute rendu les Américains moins en sécurité. Entre pardon et récidive. Le crime commis par Andrew Paul Johnson dans la foulée de la clémence que lui a accordé Donald Trump pour sa participation aux émeutes du 6 janvier 2021 est loin d'être anecdotique. Dans les 15 derniers mois, 33 personnes ayant profité de cette grâce massive et historique ont été arrêtées, inculpées ou condamnées pour d'autres crimes commis depuis leur pardon. Des cas de récidive gênants pour le président américain, qui a fait de l'ordre public et de la sécurité des Américains, face à une criminalité endémique, prétend-il, un des carburants de sa campagne électorale et des premiers mois de sa deuxième présidence. Il fragilise aussi la crédibilité du régime des pardons présidentiels, bafoué ainsi par ceux qui en ont profité. Un criminel gracié qui récidive ne fait jamais bonne figure pour celui qui l'a gracié, résume en entrevue Sai Krishna Prakash, professeur de droit à l'Université de Virginie et auteur d'un essai sur les tourments historiques qui ont frappé le régime de pardon de l'exécutif américain. Il vient aussi influencer les perceptions du public sur la pertinence et la valeur de la grâce présidentielle. À l'heure d'un premier bilan, 6 des émeutiers graciés ont été accusés dans les premiers mois pour des crimes sexuels commis sur des mineurs. Cela va de l'agression sexuelle à la possession de pornographie juvénile. Au moins 5 ont été inculpés pour possession illégale d'armes à feu, dont 2 après avoir été condamnés pour violence conjugale. 2 ont été inculpés pour viol et 5 autres arrêtés puis inculpé pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou les stupéfiants, selon une récente recension du groupe de pression Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, CREW, chien de garde de la démocratie américaine. Sa liste contenait, en décembre 2025, les noms de ces 33 émeutiers récidivistes, dont celui de Christopher Moynihan, inculpé pour harcèlement après avoir menacé de mort le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, et celui de Brent Aldridge, arrêté pour le vol de plusieurs dizaines de milliers de dollars de câbles de cuivre industriels. La nature et la gravité des crimes pour lesquels les insurgés du 6 janvier ont été inculpés soulignent les graves menaces à la sécurité publique que représente la décision de Donald Trump de s'affranchir des procédures établies par le Département de la Justice pour accorder des grâces et des commutations de peine automatiques et immédiates à ses partisans qui ont pris d'assaut le Capitole, résume d'ailleurs l'organisme. Le groupe rappelle que plusieurs de ces émeutiers graciés ont été reçus en grande pompe à la Maison-Blanche, ont été invités à prendre la parole lors de rassemblements politiques ou occupent des fonctions électives dans des gouvernements locaux. C'est le cas de James Grant, renvoyé derrière les barreaux en mars 2025, après avoir été arrêté au volant de sa voiture en état d'ébriété avec, sur lui, une arme semi-automatique et une soixantaine de munitions. C'était en Caroline du Nord où, dans les mois précédents, il a été érigé en héros et invité à prononcer un discours partisan pro-Trump lors d'un rassemblement politique du Western Wake Republican Club. Entre clémence et contradiction. Ces grâces ont sapé l'intégrité du pouvoir de clémence du président des États-Unis et leurs conséquences, avec ses récidives prévisibles, ne fait qu'aggraver la situation, commente Mark Osler, professeur de droit à l'Université St. Thomas de Minneapolis, joint par Le Devoir cette semaine. Nombre de grâces accordées par le président Donald Trump ont discrédité la prétention des républicains d'être le parti de l'ordre public. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump exerce son droit de grâce de manière totalement inédite pour un président américain en favorisant des donateurs, des alliés politiques, souvent après des rencontres informelles ou des rencontres lors de ses parties de golf. Ce rapport transactionnel qui préside à l'attribution de pardons est souvent caractéristique des régimes autoritaires. Le populiste a offert 1600 pardons et commutations de peine à ce jour, contre 250 à peine durant la totalité de son premier mandat. Plusieurs de ces pardons ont éveillé la critique, car ils entraient en contradiction avec les luttes que le populiste affirme mener contre le crime et le trafic de drogue. Sa clémence accordée à un ancien président hondurien, condamné pour association de malfaiteurs avec des cartels en vue d'exporter de la cocaïne vers les États-Unis, en a fait partie. L'une des caractéristiques de ces grâces a été également de dispenser des fraudeurs de l'obligation de rembourser leurs victimes au moyen de restitution, ce qui représente une violation flagrante d'un principe fondamental du droit pénal, celui de faire tout notre possible pour indemniser intégralement les victimes, souligne M. Osler. Les pardons accordés entre 2025 et 2026 à une douzaine de cols blancs reconnus coupables de fraude à grande échelle seraient en partie responsables d'une diminution de 113 millions de dollars dans les caisses du Fonds d'indemnisation des victimes d'actes criminels depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, selon une analyse de The Trace, organisation médiatique spécialisée dans la couverture de la criminalité aux États-Unis. C'était Donald Trump rattrapé par ses pardons présidentiels partisans. Un texte de Fabien Deglise, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir.
La course à l'armement technologique est lancée. Un texte de Jean-François Ouellette paru le 15 avril 2026 dans la presse. Quand un nouveau modèle d'intelligence artificielle pousse des régulateurs financiers du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni à discuter rapidement avec les dirigeants de grandes banques, ce n'est pas un simple détail de l'actualité techno. C'est un signal, un vrai. Dernièrement, l'entreprise Anthropic a présenté Claude Mythos Preview, un modèle décrit comme particulièrement puissant en cybersécurité, au point où son accès n'a pas été ouvert largement au public, mais plutôt encadré dans une initiative appelée Project Glasswing, avec des partenaires comme JP Morgan Chase, Microsoft, Google, Cisco et CrowdStrike. Selon Reuters, les autorités financières de plusieurs pays ont alors convoqué urgemment les grandes banques sous leur autorité afin d'échanger quant aux implications possibles de ce nouveau modèle pour leur sécurité. Cette semaine, c'est OpenAI qui a emboîté le pas en dévoilant, encore ici en accès limité, son modèle GPT 5.4 Cyber. Dit autrement, on commence à voir apparaître des modèles d'IA capables non seulement d'écrire des textes ou de résumer des réunions, mais aussi d'aider à trouver des failles, à tester des vulnérabilités et, potentiellement, à réduire le niveau d'expertise requis pour mener certaines attaques informatiques sophistiquées. Anthropic présente son initiative comme un effort défensif visant à mieux sécuriser les logiciels et les infrastructures critiques. Mais le simple fait qu'on juge nécessaire de limiter l'accès à ce type d'outils montre bien qu'on vient de franchir une étape. Pour monsieur et madame tout le monde, cela peut sembler loin. Après tout, peu de gens vont utiliser Claude Mythos ou GPT 5.4 Cyber, mais ils vont vivre dans le monde que ce type de modèle contribue à créer. Courir toujours plus vite. Et ce monde ressemble de plus en plus à ce que les théoriciens de l'innovation appellent l'hypothèse de la Reine Rouge. L'idée, empruntée à Alice au Pays des Merveilles, est simple. Dans certains environnements, il faut courir toujours plus vite simplement pour rester à la même place. En stratégie et en innovation, cela décrit très bien les contextes où chaque progrès d'un acteur force tous les autres à accélérer à leur tour, sans pour autant leur donner un avantage durable. C'est exactement ce qui menace de se produire en cybersécurité. Si l'IA permet à des attaquants de repérer plus vite des vulnérabilités, de rédiger du code malveillant plus facilement ou d'automatiser certaines étapes d'une intrusion, alors les banques, les assureurs, les gouvernements et les grandes entreprises devront eux aussi investir davantage en IA défensive, en détection automatisée, en surveillance continue et en modernisation de systèmes vieillissants. Reuters souligne justement que le secteur bancaire demeure particulièrement sensible en raison de la complexité de ses infrastructures et de la présence de systèmes hérités du passé. Autrement dit, une partie du progrès technologique ne contribuera pas à mieux servir le client, à accélérer les transactions ou à réduire les coûts. Elle servira simplement à empêcher que la situation ne se détériore. Voilà la vraie nouvelle. On nous présente souvent l'IA comme un formidable moteur de productivité, et elle le sera dans bien des cas. Mais une part croissante de cette productivité risque d'être absorbée par une course défensive permanente. Plus d'algorithmes pour détecter les fraudes, plus d'authentification, plus de vérification, plus de contrôle, plus d'investissement en conformité, plus de couches de sécurité pour compenser des outils qui rendent aussi certaines menaces plus accessibles. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la logique même d'une course à l'armement technologique. Le consommateur, lui, n'en verra pas toujours la cause directe. Il verra plutôt les symptômes. Des connexions bloquées, des opérations retardées, des vérifications d'identité plus fréquentes, des comptes gelés préventivement, de faux positifs, peut-être aussi, à terme, des coûts refilés discrètement quelque part dans le système. Car lorsqu'une institution doit courir plus vite juste pour maintenir son niveau de sécurité, cette course a un prix. Il y a ici une leçon plus large qui dépasse les banques. À l'ère de l'IA, l'innovation ne signifie pas automatiquement une amélioration nette. Elle peut aussi signifier une élévation du seuil minimal de survie. Hier, une organisation pouvait être jugée compétente si elle gérait correctement ses systèmes. Demain, elle devra démontrer qu'elle peut résister à des adversaires dopés à l'IA. Ce n'est pas la même barre, et ce n'est pas la même facture. Nos données hébergées dans nos dossiers de santé seront plus vulnérables et plus coûteuses à protéger. Votre compte Amazon deviendra plus difficile à prémunir contre les incursions et les achats frauduleux. Vos données fiscales courront plus de risques d'être récupérées et utilisées pour usurper votre identité. C'est pour cela que l'affaire Anthropic mérite notre attention. Pas parce qu'un nouveau modèle ferait soudainement s'effondrer les banques, mais parce qu'elle révèle quelque chose de plus profond. Nous entrons dans une phase où les gains de l'IA ne seront pas seulement offensifs, commerciaux ou créatifs. Ils seront aussi concurrentiels, défensifs et profondément systémiques. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si l'IA rendra nos institutions plus performantes. La vraie question est la suivante. Combien d'énergie, d'argent et d'attention devrons-nous désormais consacrer à simplement garder le même niveau de sécurité, de stabilité et de confiance qu'hier? C'est ça, l'hypothèse de la Reine Rouge version intelligence artificielle. Et elle vient peut-être juste d'accélérer. C'était « La course à l'armement technologique est lancée », un texte de Jean-François Ouellette, paru le 15 avril 2026 dans La Presse.
Donald Acharon, l'allumetière syndicaliste. Un texte de Kathleen Durocher, paru le 31 mars 2026 dans La Presse. Beaucoup de Québécois ont changé le cours de l'histoire, même si la plupart restent méconnus. La Presse s'attarde donc à l'occasion à une personnalité qui a façonné le Québec. Aujourd'hui, Donald Acharon, 1886-1967, première femme présidente d'un syndicat au Québec. Rapide et répétitif, le travail d'empacteuse d'allumettes à la EB&D Company de Hull est synonyme de danger et de maigre salaire entre 1854 et 1928. Dans cette ville industrielle voisine de la capitale fédérale, des centaines de femmes s'empressent de mettre en boîte des milliers d'allumettes pendant plus d'une dizaine d'heures chaque jour de travail. Ces travailleuses, dont la plupart sont âgées de 15 à 17 ans et d'origine canadienne-française, sont exclues des mouvements syndicaux au tournant du 20e siècle. S'inspirant de l'union de leurs collègues masculins et chapeautées par l'Association ouvrière de Hull et les Oblats de Marie-Immaculée, le syndicat des allumettières voit finalement le jour en 1918. Les allumettières et leur organisation tombent largement dans l'oubli après le déménagement de la manufacture aidée de Hull en 1928. Parmi celles-ci se trouve Donalda Charon, surnommée parfois la gendarme du syndicat. Donalda Charon naît le 29 août 1886 à Pointe-Gatineau. Elle perd sa mère alors qu'elle n'a que 9 ans et est principalement élevée par sa grand-mère paternelle, comme ses 6 frères et sœurs. Confrontée à cette situation précaire, Donalda doit rapidement trouver un travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Jeune adolescente, elle sera employée dans l'industrie du mica pendant quelques années avant que l'atelier ferme ses portes. Donalda Charon s'établit par la suite dans l'île de Hull, se faisant logeuse chez son frère et devient empaqueteuse dans la fabrique d'allumettes Eddy. Grâce à sa force de caractère et à sa capacité à faire régner l'ordre dans les départements féminins, elle est promptement promue au poste de contre-maîtresse. Dans la mi-trentaine et toujours célibataire, Donalda se voit imposer l'étiquette de vieille fille et revêt le rôle de protectrice de la morale des jeunes ouvrières sous sa responsabilité, mais également de négociatrice auprès des surintendants de la fabrique. En 1922, Donalda devient présidente de la section A du syndicat des allumettières. Il faut dire que l'organisation avait grandi et gagné en crédibilité depuis sa création 4 ans plus tôt. En décembre 1919, les quelques 200 ouvrières syndiquées avaient remporté une victoire contre leur employeur au lendemain d'une courte grève de 3 jours. Depuis, les travailleuses ont obtenu plusieurs gains en matière de salaire et de conditions de travail. Les bons coups du syndicat, ainsi que l'Association ouvrière catholique féminine de Hull, qui rassemble les différents syndicats féminins de la ville, ont valu aux allumettières une certaine notoriété locale et parmi les défenseurs et défenseuses du syndicalisme confessionnel au Québec. Baisse de salaire radicale. À l'été 1924, les profits de la compagnie aidée sont affectés par une baisse de la demande d'allumettes et d'autres produits manufacturés dans ses diverses installations. Conséquemment, le patronat prend la décision d'imposer une baisse de salaire à la vaste majorité de sa main-d'œuvre au début du mois de septembre. Les allumettières voient leur salaire réduit de 40 %. Sans attendre, elles se mobilisent. Dans les jours qui suivent, leur syndicat entame une première ronde de négociations. Alors qu'aucune femme n'avait eu de mandat de négociation lors de la grève de 1919, la situation a changé près de 5 ans plus tard. Donalda Charon, présidente du syndicat, est de la partie aux côtés de délégués masculins et de l'aumônier du syndicat, l'oblat Joseph Bonhomme. Or, la IBED décide de fermer les portes de la fabrique et déclenche un lock-out en septembre. Donalda et les syndiqués se mobilisent et déclenchent une grève. En novembre, Donalda Charon et le reste du contingent syndical tentent de mettre fin au conflit. L'hiver approche et les caisses de l'organisation se vident rapidement. Finalement, le 20 novembre, une entente est signée, mais la paix n'est que de courte durée. Une semaine plus tard, Donalda Charon et les autres contre-maîtresses impliquées au sein du syndicat sont mises à pied. Le même sort attend les allumetières qui refusent de quitter les rangs de leur organisation. Le conflit reprend de plus belle, mais l'effort de grève s'essouffle et l'appui populaire se dissipe. L'entreprise en sort victorieuse, ayant réussi à faire durer le conflit de travail aussi longtemps. Sans travail, l'ancienne allumetière poursuit son implication syndicale. Elle sera vice-présidente du Conseil central des syndicats féminins de Hull en 1929, pour ensuite devenir secrétaire générale de l'organisation l'année suivante. Au cours des années 1930, Donalda est directrice des cours du soir offerts par l'Association ouvrière de Hull aux syndiqués de la ville désirant suivre des leçons de français, d'anglais, de cuisine, de couture ou encore d'économie ménagère. Sous Donalda Charon, plus de 900 femmes et adolescentes recevront cette éducation complémentaire. On connaît peu de choses du reste de la vie de Donalda Charon. Au moment de sa mort en 1967, elle réside à Hull, toujours célibataire, et son militantisme syndical des années 1920 et 1930 semble complètement oublié. Pourtant, cette syndicaliste engagée fera progressivement sa place dans la mémoire collective des décennies plus tard, allant jusqu'à être désignée personnage historique en vertu de la loi sur le patrimoine culturel en novembre 2024. Trois moments marquants. Automne 1924. Lockout et grève se succèdent à la fabrique d'allumettes E.B. Eddy de Hull. Employé de l'entreprise depuis le milieu des années 1910, Donalda Charon est au cœur des négociations pour améliorer le sort des allumetières. Année 1930. Donalda Charon fait sa marque comme secrétaire général du Conseil central des syndicats féminins de Hull et met sur pied une série de cours du soir destinés aux travailleurs syndiqués de la ville, jetant les bases de groupes d'éducation populaire. 28 novembre 2024, 100 ans après la grève des allumetières, la gendarme du syndicat est désignée personnage historique par le gouvernement du Québec. Une bibliothèque publique de Gatineau a aussi été nommée en son honneur en 2019. C'était Donalda Charon, l'allumetière syndicaliste, un texte de Kathleen Durocher, paru le 31 mars 2026 dans La Presse.